toute éternité, décidé, choisi et déterminé le cours de tous les actes et événements, sans exception, de tout l'univers pour toute l'éternité à venir. C'est vraiment difficile de se faire une idée vraiment juste de tout ce que ça comprend. C'est parce que ça comprend toutes les choses qui ont arrivé depuis la création et qui vont jusqu'à la fin, même jusque dans le ciel même. Alors c'est énorme, la quantité de choses qui sont incluses là-dedans, c'est presque inimaginable. Maintenant, pourquoi le Seigneur a-t-il le droit de régner? On avait dit pour deux raisons principales. Premièrement, parce qu'il est le Créateur. Alors, c'est lui qui a créé toutes choses. Il a le droit de disposer des choses qu'il a créées à sa guise, étant celui qui en est le processeur. Donc, toutes choses lui appartiennent. Les deux raisons, il est le Créateur de toutes choses et toutes choses lui appartiennent. Maintenant, quelle était la nature de son pouvoir? On a vu que son pouvoir était un pouvoir absolu, qu'entre ses mains, il concentrait tous les pouvoirs, celui législatif, exécutif et judiciaire, et aussi le fait qu'il ne rende compte à personne, ça c'est des versets même qu'il dit, on les a vus quand on étudie cette section-là, et qu'il n'y a aucune forme possible d'opposition dans le déroulement de la volonté de Dieu. Maintenant, on pourra regarder quelle est l'étendue du règne du Seigneur. L'étendue, on a commencé à le regarder un peu les deux semaines dernières. Donc, son étendue, il règne sur les anges, à la fois les anges bons et les anges mauvais. Il règne aussi sur l'ensemble de la création. Il règne sur les hommes, à la fois collectivement, en termes de société, en termes d'entité politique, de pays, et aussi sur les vies des individus. Et aussi sur les vies de ses saints, comme de raison, et sur l'attribution du salut en particulier aussi. Alors, sur les hommes, on a vu la semaine dernière que collectivement, le Seigneur établit les royaumes et leurs dirigeants. Donc, il établit les frontières, il nomme les dirigeants, il peut les élever, les enlever à sa guise. Le Seigneur fixe aussi la durée et les limites des territoires, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Le Seigneur aussi utilise les nations et leurs chefs à sa guise dans l'exercice de sa volonté. Le Seigneur donne aussi l'accroissement et fait périr les nations. On pourrait regarder l'histoire et on verrait qu'il y a des nations qui ont eu un début. Ils ont eu une certaine histoire, une apogée, et puis là, tu vois, ils disparaissent complètement. Il y a certaines nations qui ont disparu. Le Seigneur aussi observe les nations et les juge. On a vu ça la semaine dernière, il y avait des versets qui disaient que l'Éternel regarde le comportement des nations, pas parce qu'il ne sait pas, là, mais il juge les nations en fonction de leur comportement, des dirigeants, et aussi de l'ensemble de la population. Plus une population va vivre dans le mal, va vivre dans l'adultère, va vivre dans toutes sortes de péchés, plus l'Éternel éventuellement va les juger, et ils vont connaître toutes sortes de choses collectivement, la pauvreté, il peut y avoir toutes sortes de manifestations de jugement de l'Éternel. Aussi, une autre affaire à se souvenir, c'est que toutes les autorités qui ont été instituées par Dieu lui-même, à quelque niveau que ce soit au niveau provincial, au niveau des dirigeants universitaires, ton patron, les gouvernements provincial, fédéral, tous les niveaux. OK. Et maintenant, individuellement, on a vu la semaine dernière que le Seigneur détermine le nombre de jours, il sait exactement combien, le nombre de jours qu'une personne va vivre. Donc, il peut savoir, dans une joie, il nous montre telle date, il sait quelle date que tu vas mourir, puis il sait de quoi tu vas mourir, les circonstances exactes, tout au complet. Maintenant, il y a une autre affaire qu'il sait, c'est qu'il règne sur les succès et les échecs des hommes. Il peut se servir, il peut te faire connaître des succès phénoménaux, et il peut te faire connaître aussi des échecs lamentables. Et ça fait partie de la vie. Et souvent, je pense que c'est dans le livre de l'Ecclésiaste où on dit que les événements sont comme face l'un à l'autre et tu peux vivre un gros succès, peut-être, je sais pas, dans ton domaine professionnel, puis dans ta vie, je sais pas, matrimoniale, tu peux vivre un échec lamentable. Ou il y a toutes sortes de combinaisons et la vie, plus on vieillit, plus on est en mesure de voir la vérité là-dedans. Et le Seigneur, ça sert à ça, puis plus particulièrement pour les siens. Pour les saints, il nous dit que toute circonstance qu'il nous envoie, ça a pour but de nous faire grandir, de nous rapprocher de lui. C'est important de savoir ça, parce que quand on vit des choses difficiles, on doit même avoir l'attitude de remercier le Seigneur pour même les afflictions qu'il nous envoie. Alors le Seigneur, c'est bien. Le Seigneur enrichit et appauvrit. On a vu aussi que le Seigneur peut donner la richesse à quelqu'un. Il peut le faire monter au plus haut sommet de richesse. Il peut le faire dégringoler du jour au lendemain. On voit ça, des grosses compagnies, ça monte, ça vient super riche, le coup du jour au lendemain. Regarde, on voit Elrond, ça drop du jour au lendemain. Et ça peut arriver non seulement pour des compagnies, mais ça peut arriver aussi, le Seigneur peut faire ça aussi pour nos propres vies personnelles. Alors, je pense qu'il y a un conseil dans le livre des Proverbes qui est dit, je pense, par Salomon. Il dit, ne me donne, Seigneur, il prie, Seigneur, il dit, ne me donne, Seigneur, ni la richesse, ni la pauvreté, de peur que si tu me donnes la richesse, je te renie, et que si tu me donnes la pauvreté, je devienne un peu, on va dire, voleur, ou risquer de devenir voleur, ou de devenir malhonnête. Alors, je pense que la meilleure prière à faire à Seigneur, face à l'attribution des richesses dans notre propre vie et de la pauvreté, c'est de lui dire justement cette prière-là, ne me donne ni la richesse ni la pauvreté, de peur que si tu me donnes la richesse, je te renie, que si tu me donnes la pauvreté, je devienne un peu fragile et que ça peut me porter à faire des gestes de malhonnêteté. Et quand on est vraiment réduit à la disette ou à l'indigence ou proche de l'indigence, des fois, on peut devenir plus sensible à être croche. C'est sûr, quand t'es plein comme un boudin, comme on dit l'expression québécoise, quand on est plein d'argent, tout va bien. C'est pas trop dangereux, mais quand on vient là, proche là, de la grosse misère, là, des fois, là, il peut y passer, mais il nous passe comme des occasions de sortir du nez, là, puis là, on peut être porté à vouloir avoir les doigts croches. OK. Là aussi, le Seigneur peut donner ou refuser le sommeil. On a vu ça la semaine dernière avec un roi. Le Seigneur peut prendre un roi, permettre qu'il ne dorme pas et se servir de ça. Et même dans notre propre vie, le Seigneur a dit le sommeil du juste. Alors, une personne qui travaille, qui est honnête, qui est en paix avec le Seigneur, normalement, si elle n'est pas malade physiquement, elle devrait avoir un sommeil réparateur. Je lisais un article aujourd'hui dans Le Soleil que tu m'as apporté. Ils disent que 43% actuellement des Américains ont des problèmes graves de sommeil. 43%. Ça commence à être un indice sérieux qu'une société ne va pas bien. Là. Puis là, il disait toutes les répercussions, les conséquences que ces choses-là avaient sur l'humeur des gens, sur l'absentéisme au travail, sur la folie, comme on appelle au volant, là, etc., etc., etc. Et ça provoque aussi énormément, probablement, de changements au niveau de ton organisme. Quand l'organisme est fatigué, il fonctionne mal, tous les systèmes deviennent dérégulés, la digestion se fait mal, etc., etc. Alors, c'est quand on dit que l'Éternel contrôle ces choses-là, sûrement que les Américains, depuis quelques années, vivent dans un état de péché, non seulement tous les péchés qu'on connaît qui sont des péchés publics, mais l'ensemble des Américains vivent très mal. C'est ainsi, là. Si on prendrait tout l'ensemble des choses qu'ils font, sont pas corrects, sont suralimentés, le monde va être tard, ils vont dans les... Regarde les jeunes actuellement, là. On entend parler, là, le monde s'en va dans des grosses soirées de danse, là. Ils se bourrent de drogue, ils prennent d'autres drogues pour stimuler leur sexualité, ils dansent des nuits de temps avec toutes sortes de choses. Il ne faut pas penser que ces choses-là se font, là, que c'est... Il n'y aura pas de répercussions à ça. Là. Les gens font ça, ils pensent là, qu'il n'y a rien. Là. Ils ont ils ont 20 ans, ils sont en pleine forme, ils peuvent dormir, pas dormir de la nuit, danser de la nuit. Tant à l'heure, dans quelques années, ces gens-là, ils vont connaître des problèmes énormes de santé. Ça va être terrible si ça continue comme ça. OK, le Seigneur aussi donne la maladie et la santé, peut prendre une personne en santé, on a vu ça à un moment donné dans la Bible, il y en a un roi qui a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Le Seigneur a permis que la lèpre apparaisse au front. Alors le Seigneur peut prendre une personne malade, lui enlever sa maladie, peut prendre une personne en santé puis lui donner une maladie. On sait aussi que le Seigneur est maître de la rétribution. On a vu la semaine dernière aussi l'exemple du roi dans le premier livre dans le livre des Juges, c'est-à-dire le premier chapitre. Il y avait un roi qui avait l'habitude de couper les pouces et les pouces des mains et des pieds toute une multitude de rois. Je pense qu'il dit 70, je ne me trompe pas. 110 rois qui a coupé le moment donné, quand il se fait pogner lui-même, qui a été vaincu. le Seigneur permet qu'ils reçoivent la même chose qu'ils donnent aux autres. Et ça, c'est une règle biblique qu'on peut observer dans la Bible, là, souvent. Là. Si tu prenais ta Bible, chaque page que tu vois, tu lis, tu verrais que le Seigneur, souvent, ce qu'on appelle la loi de la rétribution, il va te punir par là où tu as péché. La même forme de péché, c'est un orgueilleux qui fait des péchés d'orgueil, le Seigneur va t'humilier, etc. Il prend toujours comme le même péché que tu as utilisé, qui permet que tu sois corrigé par le péché, permet que par ce péché-là, tu souffres à cause du péché que tu commets. C'est assez intéressant de savoir ça. Maintenant, ce qu'on voit ce soir, de ce qu'on a vu, c'est dans le fond, c'est une révision des deux semaines précédentes. Là, on voit que l'Éternel est souverain sur l'ensemble de sa création. Donc, sur l'univers matériel. On va commencer par regarder le grand, l'infiniment grand, les étoiles, les planètes. Ésaïe 40, versets 26 à 28. 183. OK. Ésaïe 40, versets 26 à 28. Levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. C'est lui qui a fait sortir en ordre leur armée et qui les appelle toutes par leur nom. Telle est la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, et que pas une ne manque à lui obéir. On parle d'obéissance, comme si c'était des personnes vivantes. Pourquoi donc, dirais-tu Jacob, et pourquoi parlerais-tu ainsi Israël? Mon état est caché à l'Éternel, et mon Dieu ne soutient plus mon doigt. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu que l'Éternel est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre? Il ne se lâche point, il ne se fatigue point, et on ne peut sonder son intelligence. Alors, l'idée, c'est que dans le fond, les galaxies, les étoiles, les astres, tout ce qui existe, le Seigneur les contrôle parfaitement, et leur harmonie, leur rotation, on peut dire, leur mouvement est parfaitement contrôlé par l'Éternel, et on dit même le mot « obéir ». Alors, si le Seigneur dirait un as, il arrêterait de tourner. C'est pas plus compliqué que ça. Ésaïe 38, juste une couple de pages avant, versets 8 à 10. C'est le fameux passage où il veut donner à Ézéchias un signe comme de quoi le miracle va s'accomplir. Il fait retourner le soleil de 10 degrés sur un cadran, les cadrans solaires. Maintenant, c'était quelque chose au sol, puis il y avait un bâton au milieu, puis l'ombre indiquait l'heure du jour. Il dit à Ézéchias, voici, je ferai retourner l'ombre par les degrés qu'elle a parcouru au degré d'Akaz de 10 degrés en arrière. Autrement dit, il a permis que l'heure recule sur l'horloge solaire de 10 degrés en arrière. Et j'ai déjà lu quelque chose dans un livre, à un moment donné, apparemment, que selon les savants, à quelque part, il y a des calculs qui ne fitent pas, puis ça ne fit pas de 10 degrés. Des calculs d'astronomique, de physique, là, et ça ne fitait pas de 10 degrés. Quand j'ai entendu ça, je me dis, c'est... Et qu'elle a parcouru le degré d'accord de 10 degrés en arrière avec le soleil. Et le soleil rétrogradera de 10 degrés par les degrés que le soleil qui rétrograde. Quelque part, le Seigneur a permis que le soleil, c'est comme s'il avait retourné en arrière de 10 minutes, de 10 degrés. Quelque part, c'est, OK. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, lorsqu'il fut malade et qu'il guérit de sa maladie, je disais, quand mes jours seront tranquilles, je m'en vais aux portes du sépulcre, je suis privé du reste de mes années. Alors, il est capable de contrôler, c'est sûr que c'est capable pour l'ensemble de toutes les planètes, de tout l'univers, de toutes les galaxies. Le soleil, c'est pas plus compliqué que lui, c'est pas plus compliqué que ça, il pourrait faire la même chose avec la Terre, il pourrait faire la même chose avec la Lune. Job 38, verset 31 à 33. Là, il parle à Job, puis là, c'est Job qui arrive à la fin de sa discussion avec le Seigneur, et là, c'est le Seigneur qui prend l'initiative de lui parler. Il dit, « Peux-tu resserrer les liens des Pléiades ou détacher les chaînes d'Orion? Fais-tu sortir en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel ou disposes-tu de son pouvoir sur la terre? » C'est-à-dire que le Seigneur est en train de dire à... est en train de dire à Job, es-tu capable de faire ces choses-là, tu sais, de jouer avec les planètes, de faire sortir les planètes en leur temps, de contrôler parfaitement les planètes. Maintenant, on peut dire, oui, je contrôle les choses à ce niveau-là, mais est-ce qu'il contrôle les choses au niveau du globe, au niveau terrestre, au niveau de notre planète à nous? On va aller regarder plusieurs affaires. Les eaux. Psaume 147, verset 18. Psaume 147, verset 18. Et là, il parle de la glace. Dans le fond, il parle de la neige aussi. On peut même commencer à partir du verset 15. Il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Il fait tomber la neige comme de la laine et répand le givre comme de la cendre. Il jette sa glace comme par morceaux qui peut résister devant son froid. Il envoie sa parole et les fait fondre. Il fait souffler son vent et les eaux s'écoulent. Alors, on voit qu'il y a le contrôle sur l'eau. Là, on parle de la neige, on parle de, et même plus tard, il y a des passages aussi où le Seigneur a envoyé de la grêle pour que son armée, pour qu'Israël puisse gagner des guerres, parce qu'il avait envoyé de la grêle. Alors, il y a le contrôle de la grêle aussi. Le vent, 147-18, on parle du vent. Il dit, il répand... il fait souffler son vent. La gelée, 147-16, on l'a vu. Le givre de la cendre. La grêle 148.8. Si vous louez l'Éternel sur la terre, vous, monstres marins, et vous, tous les abîmes, feu et grêle, neige et vapeur, vent de tempête qui exécutait sa parole. Ça veut dire que l'Éternel contrôle le tonnerre, par feu, c'est le tonnerre, la grêle, la neige, la vapeur, les vents de tempête, les tornades, là, c'est pas des hasards, ça arrive dans un certain pays, puis ça traverse une certaine section de pays, c'est sous le contrôle absolu de l'Éternel. Ça le dit, qui exécute sa parole, ces choses-là exécutent sa parole. Maintenant, les éclairs, Job 38, versets 25 et 35, il dit... On t'a aussi par quel chemin se partage la lumière et le vent d'Orient qui se répandit de la terre. Verset 25. Qui a donné à l'averse ses canaux et sa voix à l'éclair des tonnerres? Alors, il semblerait que quand la pluie tombe, elle a comme des canaux. Elle suit un certain ordre dans sa descente vers la terre. Et c'est l'Éternel qui a établi les canaux. Et c'est aussi l'Éternel qui établit sa voix où l'éclair a tombé. Nous, on la voit des fois, il y a une fois cet été, j'étais passé. Il y a eu un coup de tonnerre, je ne sais pas si c'est à cause du fleuve. Mais ça t'a fait un bang, mon gars, le toit n'a presque levé. Je le dis, c'était fort, là. Quelqu'un qui avait peur des étoiles, elle avait peur du tonnerre, là, il n'avait eu son argent ce fois-là, là, j'ai fait vraiment un saut. Alors, mais là, ça tombe, si est-ce qu'il arrive qu'il y a une montagne au bord, et là, il y a le fleuve qui sert aussi probablement de choses pour pousser. Là. Alors, ça avait un méchant. Aussi, le verset 35, il dit, « Envoies-tu les éclairs, partent-ils, » il parle à Job, « partent-ils et te disent-ils, nous voici? » Alors, l'Éternel dit, il envoie les éclairs, et il part à sa voix. Parce qu'il dit, et te disent-ils, l'enflandé, quand tu commandes-tu les éclairs? Si tu commandes les éclairs, qu'est-ce leur dit, part, ils partent-ils? Dans le fond, il est en train de montrer à Job que comme créature, il n'y a vraiment pas ce qu'il faut pour critiquer l'Éternel. C'est un pauvre pécheur. Et après, tu as Job 38, verset 26. Alors, il parle des tonnerres, puis il dit, pour faire pleuvoir sur une terre sans habitants, sur un désert sans homme. Même, il y a un endroit dans l'Ancien Testament où le Seigneur dit qu'il contrôle la pluie sur... il peut contrôler, permettre que certaines parties du pays d'Israël recevaient plus de pluie qu'une autre partie qui était dans la désobéissance. Il contrôle... la pluie où elle tombe, il peut même à l'intérieur d'un même pays permettre que certaines pays, certaines parties du pays qui vivent dans l'obéissance à Dieu, Dieu les bénit par les pluies, parce que les pluies, c'est contrôlé par lui. Il peut permettre que d'autres parties qui soient dans la désobéissance ne reçoivent pas de pluie. On a aussi la glace, psaume 37, verset, pas psaume 37, mais Job 37, verset 10. Par son souffle, Dieu forme la glace et l'eau qui s'étendait est resserrée. Puis après ça, il charge l'humidité, la nuit, il disperse les nuages, plein de ses éclairs. Ceux-ci se promènent de tous côtés selon ses directions pour faire tout ce qu'il commande sur la face de la terre habitée. Alors on voit que l'Éternel est au contrôle parfait de toutes choses, y compris les éléments. La neige, psaume 37, verset 6. Job 37, verset 6. Psaume 37, verset 6. Il dit à la neige, c'est l'Éternel. Regarde aussi dans le verset 5, ça dit, et ça dit, Dieu tonne de sa voix merveilleusement. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il dit aux ondées, aux fortes ondées. Alors, la petite pluie et la grosse pluie, tout est sous son contrôle. Les nuages, Jérémie 51, verset 15 et 16. Au son de sa voix, on parle de la voix de l'Éternel comme de raison, les eaux s'amassent dans les cieux. Il fait monter les vapeurs du bout de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Et là, 16, au son de sa voix, les eaux s'amassent dans les cieux. Il fait monter les vapeurs du bout de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Après ça, tu as les récoltes. Le psaume 105, verset 10 à 14. Juste 139. Et qui dit, tu visites la terre, tu l'arroses, tu l'enrichis abondamment. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Tu prépares leur froment après que tu as préparé la terre. Tu abreuves ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu l'amollis par la pluie menue. Tu bénis son germe. Là, on voit le rôle que l'Éternel envoie la pluie et qui vient bénir le germe. Bénir le germe, c'est que des graines sont en terre. On voit le gars en arrière, chaque année, je le vois, il fait un énorme jardin. Je le vois arriver là, vers le mois de mai, là, et là, il va venir, je lui mets des affaires dans la terre, ça fait rien. Tout a l'air. De quoi m'amener, tu vois ça, ça pousse, ça pousse. À la fin de l'été, tu as des superbes belles plantes. Ça dit que c'est l'Éternel qui contrôle ça. Donc, 105, 10 à 14. Tu abreuves ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu l'amollis par la tu bénis son genre. Tu couronnes l'année de tes biens et les roues de ton char distillent l'abondance. Elles la répandent sur les pâtures du désert et ses coteaux sont parés de joie. Les campagnes sont revêtues de troupeaux et les vallées sont couvertes de froment. Elles en triomphent et elles en chantent. Même ça parle comme. Et c'est comme si c'est poétique, comme si la nature même chanterait sous l'influence de la voix de l'Éternel. Donc, le Seigneur peut se servir des éléments comme, pour faire du bien, pour exprimer son amour à son peuple, et il peut aussi se servir des éléments destructeurs comme instrument de discipline et de châtiment. Et d'ailleurs, il l'avait fait dans l'Ancien Testament avec les Juifs, il leur disait, si vous obéissez, vos terres produiront, vos terres seront, et vos animaux n'avorteront point. Et il disait, si vous désobéissez, vos terres vont devenir dures comme de l'airain. Alors, on voit vraiment que c'est l'Éternel qui a le contrôle sur ces choses-là. Il peut s'en servir à la fois pour bénir ou à la fois pour corriger ou discipliner. Maintenant, sur le monde végétal, on a vu sur l'ensemble des événements, mais sur le monde végétal, sur toute créature vivante est dans les mains de Dieu. Job 12, verset 10.
674.
Qui tient en sa main l'âme de tous les vivants, l'esprit de toute chair d'homme. Ici, c'est plutôt l'âme des vivants c'est pas nécessairement là, que les végétaux ont une âme, mais c'est vraiment qu'il tient l'âme de tout qui est vivant. Dans le fond, je devrais le mettre ailleurs. Jonas 4, verset 6. OK, 1111, Jonas 4, verset 6. Et l'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et le délivrer de son chagrin. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. À cause de ce ricin, il a permis qu'une plante pousse au-dessus de sa tête pour y donner de l'ombre. Alors, c'est sûrement que la plante n'a pas poussé à un rythme normal. Là. Le Seigneur est capable de commander à une plante et la plante va se développer. Ici, on peut le dire, normalement, ça prendrait peut-être des semaines, peut-être même des mois. L'Éternel a permis que dans l'espace d'une nuit, un ricin pousse au-dessus de sa tête. Matthieu 6, verset 28 à 30. Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Observez comment les lys des champs croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu, c'est Dieu qui révèle, on parle de beauté des fleurs aussi. Là. Je ne me suis jamais arrêté à le faire. Mais le Seigneur, il dit ici que si tu pars, tu vas dans un champ, puis tu observes comment que les lys des champs croissent, tu vas triper, là. Et il dit, cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Je suis convaincu que quelqu'un qui va dans un champ, qui donnerait la peine d'observer la croissance d'un lys et de voir le développement de toutes ses parties en harmonie et en beauté, juste au cours d'une croissance, je suis convaincu qu'il découvrirait que la volonté... Parce que Dieu dit ici que Dieu... il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui, qui demain sera jetée dans le four, ne vous revêtira pas beaucoup plus aux gens de petite foi. Alors, c'est l'Éternel qui fait ça. On peut juste regarder les choses comme ça, on voit les beautés des fleurs du Seigneur. Et quand on regarde ça, des fois, c'est parce qu'on les regarde rapidement. Mais ce que le Seigneur dit, c'est d'observer avec attention, de regarder la nature. Quand on regarde la nature avec un œil ouvert, un œil attentif, un œil observateur, un œil méditatif. Alors là, tu vois des choses dans la nature qui est plein de beauté. Dans le fond, le Seigneur le dit dans sa parole, il dit dans les psaumes, toute la nature transpire de sa gloire. Alors, si quelqu'un observe la nature comme faut, il va voir... juste au printemps, quand on voit, par exemple, les lilas, on prend des marches, des fois, au Pulissi, on passe à une place, il y a des lilas, puis il y a un petit vent qui passe. C'est enivrant. C'est beau, puis juste la fleur comme telle, t'en découpes, des fois, t'en brises des morceaux, puis tu fais ça chez vous, ça embaume tout l'appartement. Et si on se met à observer, attends, toutes les saisons, la nature, elle, c'est beau. Alors, des fois, il faut s'arrêter. Pas toujours voyager comme on voyage sur les autoroutes. Des fois, il faut aller prendre des marches dans le bois, il faut se promener du long des cours d'eau. Et là, quelqu'un qui prend le temps de s'arrêter, il faut le prendre le temps, parce que c'est la création de Dieu, puis Dieu permet qu'on regarde ces choses-là, qu'on en jouisse. Ézéchiel 36, versets 29 et 30. Hey, ici, c'est vraiment, là, il parle fort au point de vue de son contrôle des récoltes. Il dit, je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le froment. Le froment, c'est une céréale. J'appellerai le froment et je le multiplierai. Et je ne vous enverrai plus la famine, je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs. Hey, ça commence à être beaucoup. Là. Le fruit des arbres, les pommiers, les cerisiers, il est capable de multiplier ces choses-là. Multiplier le fruit des arbres et le produit des champs. On va dire, tout ce qui pousse, le produit des champs, c'est n'importe quoi qui pousse dans le champ. Afin que vous ne portiez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, quand le Seigneur envoie une famine, c'est un opprobre parmi les nations. Et quand le Seigneur permettait que son peuple vive une famine, ça le dit même que c'est aux yeux des nations, c'est comme si les nations auraient dit, ah, Dieu bénit pas son peuple. Pas pour rien que la fête de l'action de grâce a été inventée, puis c'est à l'automne. La fête de l'action de grâce, c'est que Les gens, à l'époque, ont inventé cette fête-là parce qu'ils voyaient que à l'automne, là, c'est que la nature regorge de toutes ces... Tu sais, on a la corne d'abondance qui est l'image, on voit l'ensemble des fruits. Et quand on se promène l'automne, sur le guillon des routes, juste à l'île d'Orléans, c'est pacté de stock, là. Pas pour rien que les gens ont eu comme un besoin de remercier l'Éternel. C'est un besoin fondamental que d'avoir de la gratitude quand on a de l'abondance. OK, maintenant, on a vu le monde végétal, on a vu l'ensemble, on a vu le gros morceau en haut. Les étoiles, les galaxies, le soleil, la lune. On descend un petit peu plus bas, on vient sur la Terre. Là, on a les éléments. On descend un petit peu plus bas, on a le monde végétal. Maintenant, est-ce que ce sont la même chose avec le monde animal? 1 roi 17, verset 2 à 6. On peut même commencer le verset 1. Alors Élie le Tishbite, l'un de ceux qui étaient établis en Galaad, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Pendant ces années-ci, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon ma parole. » Et la parole de l'Éternel lui fait adresser en ces termes, « Va-t'en d'ici, tourne-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras au torrent, j'y ai commandé. » J'ai commandé. Ben, c'est fort comme expression. Un verbe, c'est commander, que c'est lui qui donne l'ordre, puis la créature obéit. Alors il dit, j'ai commandé au corbeau au pluriel de t'y nourrir. Puis j'ai déjà lu quelque part dans un livre qu'apparemment l'oiseau qui est le plus comme combatif à ne pas vouloir donner ce qui lui appartient. Alors, égoïste et très, il ne veut pas donner. Quand il prend quelque chose, il garde, c'est à lui. Alors, tu as un oiseau qui est très, qui n'est pas porté à donner. Alors, il prend l'oiseau qui est peut-être le plus égoïste, il se sert de cet oiseau-là, il lui commande, puis il dit d'aller porter ce qu'il a ramassé à son serviteur qui est au torrent, mais qui hérite. Il partit donc et fit selon la parole de l'Éternel, et s'en alla et demeura au torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, et les corbeaux, plus qu'un, au pluriel, lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait au torrent. Alors, le Seigneur est capable de commander aux oiseaux. Exode 8, verset 12 à 20. On voit les insectes maintenant. Qui contrôle les insectes. Alors, Moïse et Aaron sortirent d'auprès de Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles qu'il avait fait venir sur Pharaon. Et l'Éternel fit selon la parole de Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les villages et dans les champs. On les amassa en monceaux, et la terre en fut infectée. Mais Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, apesantit son cœur et ne les écouta point, comme l'Éternel l'avait dit. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, et elle deviendra des poux dans tout le pays d'Égypte. » Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et frappa la poussière de la terre, et elle devint des poux sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière du pays devient des poux dans tout le pays d'Égypte. Et les magiciens firent la même chose par leurs enchantements pour produire les poux. Mais ils ont voulu faire la même chose, mais ils ne purent pas. Les poux furent donc sur les hommes et sur les bêtes. Alors les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, ne les écouta point, comme l'Éternel avait dit. Puis l'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Voici, il sortira vers l'eau et tu lui diras, « Ainsi a dit l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Alors l'Éternel est capable de prendre de la poussière, faire des poux avec, puis de que ces poux-là aillent ou qu'ils veulent. Jonas 2, verset 1, c'est le fameux passage du grand poisson. On a souvent dit une baleine, mais la parole ne dit pas que c'est une baleine, la parole dit que c'est un grand poisson. Et historiquement, il y a eu des bateaux, c'est documenté qu'il y a eu, c'est déjà arrivé ça, qu'il y a des poissons, des grands poissons, et c'est documenté dans un livre que j'ai, là. Ils donnent tous les titres de journaux, ce que c'est fait en Angleterre. Ils sont allés pêcher, mais à un moment donné, il y a des hommes qui sont tombés en mer, ils sont ramassés par des gros poissons. Et à un moment donné, quand ils ont ramassé le poisson, quand ils ont ouvert le poisson, il y avait un homme dedans. Alors, il y a des hommes qui font les gorges chaudes de ça. Ils disent, ouais, ça se peut. Premièrement, une baleine, ils disent que c'est une baleine. La parole, est-ce qu'elle dit que c'est une baleine? La parole, elle dit pas que c'est une baleine, elle dit que c'est un grand poisson. Parce qu'ils disent que la baleine n'a pas la capacité d'avaler. Mais encore là, même si ça serait une vraie baleine, est-ce que l'Éternel ne sera pas capable d'ouvrir une ouverture de gorge ou quelque chose? Mais là, on dit que c'est un grand poisson, et c'est documenté historiquement que ces choses-là se sont déjà produites dans la réalité documentée des hommes qui ne peuvent pas constater. Alors, quand les hommes viennent rire des choses comme ça, c'est ridicule, parce que même historiquement, on peut prouver que ces choses sont déjà arrivées. Alors, ça dit, « Et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Alors, l'Éternel a permis, il a commandé une sorte de gros poisson pour qu'il vienne, parce qu'il avait été jeté à la mer par les marins, et l'Éternel a permis qu'il vienne exactement à l'endroit où il avait besoin pour ramasser son homme en son temps, qui demeure dans son ventre. On a aussi l'épisode dans Matthieu où l'Éternel, où Jésus arrive avec Pierre à un endroit et on lui demande de payer un certain tribut. Et le Seigneur dit à Pierre, va chercher un poisson, il va y avoir un statère dans sa bouche. Alors, pour que le Seigneur sache qu'un poisson était à un certain endroit dans tel cours d'eau, qui disent à Pierre, vas-y, puis il savait que Pierre était pour aller au bon endroit, et ramasser de bons poissons, puis qu'il y ait le montant d'argent qu'il avait besoin pour payer. Mm. Quelque part, c'est parce que l'Éternel a le contrôle du poisson. T'as aussi les bêtes dans Nombre 22, 34 à 20. Mais l'ange de l'Éternel se tint dans un sentier de vigne qui avait un mur d'un côté et un mur de l'autre. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre la muraille, et elle serra contre la muraille le pied de Balaam qui continua à la frapper. Et l'ange de l'Éternel passa plus avant et s'arrêta dans un lieu étroit où il n'y avait plus chemin pour se détourner, ni à gauche ni à droite. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se coucha sous Balaam. Mais la colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Alors l'Éternel ouvrit la bouche. Qui ouvre la bouche? L'Éternel a ouvert la bouche de l'ânesse et il a permis qu'un animal parle. Ça aussi, tu vas aller dans les commentaires des libéraux, ils vont trouver toutes sortes de pirouettes pour dire que c'est pas ça. Ah, ils y ont imaginé, puis c'est ci, puis c'est ça. Si ta parole dit, si tu crois ce que le Seigneur dit, le Seigneur ici dit qu'il a ouvert la bouche à une ânesse. Moi, je n'ai aucune difficulté à croire que Dieu est capable de faire ça. Et elle dit à Balaam, mène-toi une ânesse qui parle. Elle dit à son boss, que t'ai-je fait que tu m'aies déjà frappé 3 fois? Et Balaam répondait à l'ânesse, c'est que tu t'es moqué de moi, connais-je une épée en ma main, je t'aurais déjà tué. Et l'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as monté juste depuis que tu existes jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi à ton égard? Et il répondit non. Et là, on voit, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange éternel qui se met dans le chemin. Alors, on voit vraiment que l'Éternel, donc on le voit, c'est sur les petits animaux, la nuée de sauterelles aussi dans les épreuves qu'il a envoyées à Pharaon en Égypte. Alors, c'est non seulement sur les... Et je suis convaincu que là, on pourrait descendre encore un niveau plus bas, on pourrait aller au niveau microscopique, au niveau du biochimique, au niveau des choses qui se passent à l'intérieur des cellules. Si le contrôle, au niveau des poux, au niveau des gros animaux, des énormes animaux comme des poissons, alors sûrement qu'il contrôle aussi tout ce qui se passe au niveau cellulaire. Puis quand on regarde l'ensemble des choses qui se passent au niveau cellulaire, c'est super flyé. J'appelle pas ça flyé ordinaire. Hein, vous êtes déjà étudiés, vous le savez, vous êtes déjà étudiants de l'université. On sait qu'au niveau de l'infiniment petit, comment c'est merveilleux. Et encore là, au niveau de l'infiniment atomique, subatomique, toutes ces choses-là, l'Éternel contrôle parfaitement. Et quand on regarde comment les choses sont faites au point de vue dans les volumes, là, l'ADN, là, c'est juste structurellement de penser que c'est quelque chose qui s'est fait par tout seul. Là, c'est plus fou que de croire que Dieu a fait ça. C'est carrément plus fou. C'est tellement beau, tellement structuré harmonieusement, plein de lois mathématiques. Et tout l'ensemble de la création est bâti comme ça, puis l'homme s'acharne encore à voir du hasard là-dedans. C'est vraiment de l'orgueil, hein? C'est parce que, en reconnaissant Dieu, l'étape suivante, il faut que tu reconnaisses que tu as les comptes à lui rendre. Et vu que l'homme ne veut pas, absolument pas avoir des comptes à rendre à Dieu et faire absolument tout ce qui lui plaît, il va nier l'évidence. Parce que dans Romains 2, le Seigneur dit qu'il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait dans toute sa création et ils n'ont pas adoré. Même les hommes qui sont dans les fins fonds des nations qui n'ont jamais entendu parler de l'Éternel sont coupables aux yeux de Dieu. Il y en a qui disent « Ah, s'ils ont jamais entendu parler de l'Évangile, s'ils ont jamais reçu l'Évangile, ils ne seront pas coupables, ils vont aller au ciel. » Non, ils n'iront pas au ciel. Parce qu'ils ont toute la gloire de Dieu qui se manifeste autour d'eux. Ils ont leur conscience qui leur manifeste leur péché, qui leur démontre leur péché, et ils continuent quand même à faire leur péché. Et ceux qui ont eu la lumière, qui ont eu les pays, qui ont reçu la lumière, vont être encore plus coupables. Parce que là, les autres, ils vont avoir eu non seulement la révélation extérieure, mais ils vont avoir eu la révélation de Dieu lui-même. OK. On avait aussi dans Ésaïe 34, versets 11 à 16, là, l'Éternel, il dit qu'est-ce qui va se passer. Il dit « Le pélican et le hérisson la posséderont. » Il parle de, je pense, je me trompe pas, je pense que c'est de Babylone qui parle. Quand il est du mien, en tout cas. Okay. Le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau y feront leur demeure. On étendra sur elle le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Ces grands ne seront plus là pour proclamer la royauté. Tous ces princes seront réduits à néant. Les épines croîtront dans ses palais, les orties et les ronces dans ses forts. Elle servira de repère aux chacals et de parc aux hiboux. Les bêtes du désert et les chiens sauvages s'y rencontreront, les boucs s'y appelleront l'un l'autre, l'effraie s'y établira et y prendra son repos. Là, le serpent fera son nid, il déposera ses œufs, les fera éclore, et il recueillera ses petits dans l'ombre. Là aussi, les vautours se rassembleront l'un avec l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est le dernier verset. Cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux n'y manquera, aucun d'eux ne regrettera l'absence de l'autre, car c'est sa bouche qui a commencé. C'est-à-dire que l'Éternel va permettre que c'est l'ensemble des animaux qui avait déclaré, c'est lui-même qui va commander, puis son esprit va les rassembler. Il dit lui-même, il dit « Cherchez dans le livre de l'Éternel ». Puis si tu iras voir cette punition-là à cette ville-là, il leur dit « Cherchez dans le livre de l'Éternel et l'endroit où il leur dit que ça va arriver, et lisez, aucun d'eux n'y manquera, aucun d'eux ne regrettera l'absence de l'autre. Si tu iras là, puis le quin sera là, le hérisson sera là, le corbeau sera là, etc., et il se comporterait comme le Seigneur dit. » C'est bien simple, quand tu comprends le principe fondamental, c'est que Dieu contrôle toutes choses de façon absolue. Alors, s'il dit à certains groupes d'animaux, vous allez à tel endroit. Et regarde, quand il dit que les vautours vont se rassembler à un certain endroit, alors encore là, ces vautours-là, c'est l'Éternel qui va permettre qu'ils se rassemblent à un certain endroit. On va terminer par le psaume, les trois beaux psaumes, qui sont des psaumes où on parle de ces choses-là. Psaume 148 à 150. C'est tellement des beaux psaumes. C'est justement le titre qui est dans notre Bible, c'est « Exhortation à toutes les créatures de louer l'Éternel ». Et dans 149, c'est « Exhortation aux fidèles de chanter les louanges de Dieu ». Et dans le psaume 150, exhortation à chanter les louanges de Dieu au son des instruments. On va terminer là-dessus, parce que c'est une belle façon de résumer à peu près tout ce qu'on... C'est une façon de louer le Seigneur, tout ce qu'on a vu aujourd'hui aussi. Louez l'Éternel dans les cieux, louez-le dans les plus hauts lieux. Tous ses anges, louez-le, toutes ses armées, louez-le. Louez-le, soleil et lune, louez-le, toute étoile brillante, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours, à perpétuité. Il y a mis un ordre qui ne changera point. Louez l'Éternel sur la terre, vous, monstres marins et tous les abîmes, feu et grêle, neige et vapeur, vent de tempête qui exécutez sa parole, montagnes et toutes les collines, arbres à fruits et tous les cèdres, bêtes sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et vous aussi, vierges, vieillards avec les enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a élevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Psaume 149. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, et sa louange dans l'assemblée de ses bien-aimés. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a fait, que les enfants de Sion s'égaient en leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le chantent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir en son peuple, et glorifiera les humbles par son salut. Que ses bien-aimés triomphent avec gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Les louanges de Dieu sont dans leur bouche, et l'épée à deux tranchants dans leurs mains, pour faire vengeance parmi les nations, et pour châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leur grand avec des sceptres de fer, pour exercer sur eux le jugement qui est écrit. Cet honneur est pour tous ses bien-aimés. Louez l'Éternel. Et le dernier, le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu pour sa sainteté, louez-le pour cette étendue qu'a fait sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon la grandeur de sa majesté, louez-le au son de la trompette, louez-le avec la lyre et la harpe, louez-le avec le tambourin et les danses, louez-le avec les instruments à cordes et la flûte, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel.
Amen.
Oui, Seigneur de Tout-Puissant, on veut te louer, te remercier, te rendre grâce pour toutes tes bontés. On veut t'adorer aussi pour ta grandeur infinie, pour ton contrôle parfait sur toutes choses, y compris sur nos propres vies. Puisses-tu nous bénir cette semaine, Seigneur, et permettre qu'on vive une vie qui fasse gloire à ton nom par notre sainteté de vie, par notre consécration, par notre amour les uns envers les autres et par l'obéissance qu'on donnera aux directives et aux directives du Saint-Esprit et à ta Sainte Parole. Puisses-tu nous bénir cette semaine, Seigneur, et nous garder dans le chemin et de permettre qu'on puisse vivre une semaine sainte et une semaine qui te rend honneur et gloire. Te demandons toutes ces choses par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.